Radio Scénique, Eric Dauterre, bonjour. Tandis que Jean-Luc Lagarde s'annonce au théâtre de l'Atelier une fin du monde qui ne concerne que son héros, un fils de retour dans un foyer indifférent voire hostile, c'est une catastrophe d'une toute autre ampleur que proposent Laurent Godet et Laetitia Guédon au théâtre de la Tempête, le bien nommé. Dans Même si le monde meurt, le titre de leur pièce, l'auteur et la metteuse en scène ne nous proposent rien de moins qu'une bonne grosse apocalypse en bonne et due forme. On est ressorti vivant et très content, voire enthousiaste, et c'est ce qui nous a donné envie d'en savoir plus sur cette création qui réunit les talents d'un Goncourisé, d'une comédienne metteuse en scène directrice du théâtre à l'imagination débordante, d'une jeune troupe et d'un vidéaste. C'est Benoît Lahose qui est en charge de la vidéo sur ce spectacle que nous avons avec nous en studio. Son héros, à elle, il vit une forme d'apocalypse aussi. Il est aspiré dans un jeu vidéo dont chaque étape est définitive. Il se démène tant bien que mal pour ne pas perdre pied. Nous recevrons en deuxième invité Emmanuelle Destremo, autrice de Random Access Memory, un texte lauréat du prix Tout Public des EAT, écrivain et écrivaine associée du théâtre, avec qui nous sommes en partenariat. Nous vous annoncerons d'ailleurs en fin d'émission les lauréats de cette année pour le prix des EAT. Pascal Duterte, notre chroniqueur, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il nous a laissé sa chronique. Avec son goût du pas de côté, il nous fait faire un tour du côté du boulevard du crime à Paris. Et c'est avec lui que nous conclurons notre émission de ce jour. Vous avez le programme, éteignez vos portables, voici venue la 11e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Benoît Lahose, bonjour.
Bonjour.
Alors, petite mise au point, Laetitia Guédon devait être parmi nous aujourd'hui. Elle a eu un empêchement tout à fait sympathique auquel on ne peut hélas rien. Et c'est vous, son vidéaste depuis 10 ans, qui l'a représenté, mais qui allait répondre à nos questions sur ce spectacle. Votre actualité, c'est Même si le monde meurt, une sorte de compte à rebours vers une apocalypse redoutée, révélatrice des regrets et des errances de chacun. Alors, la pièce, elle commence par une sorte de chuchotement qui se fait de plus en plus précis, jusqu'à l'annonce, vous ne le savez pas encore, le monde déjà gronde et crisse. Le monde va mourir, la planète est menacée. Comment est-ce qu'il est né ce texte, ce texte signé d'un Goncourisé? Laurent Godet a eu le Goncourt en 2004.
Hein. Oui, c'est un Goncourisé qui est très simple, mais comme beaucoup de textes, il est né d'une rencontre, et de la rencontre de désir. Il faut savoir que Laetitia Guédon passe commande à des auteurs et autrices, et que là, il s'agit d'une commande à Laurent Godet, qui se situait dans le cadre d'une invitation du Théâtre de la Cité, le Centre Dramatique National de Toulouse, de Laetitia, de suivre un dispositif qui s'appelle l'Atelier Cité et qui accompagne des jeunes professionnels pendant 15 mois. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement, Laurent a complété un texte qui existait déjà, mais qui vibrait, comme il dit, dans un tiroir, et que Laetitia l'a autorisé à reprendre pour cette commande.
Alors donc, elle a passé en quelque sorte commande en lui disant, voilà, j'ai une troupe de jeunes comédiens, qu'est-ce que tu as dans tes tiroirs, ou comment
c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Non, je crois que ça faisait longtemps que Laetitia souhaitait travailler avec Laurent Godet. Elle avait travaillé sur ses trois précédents spectacles, enfin les deux précédents, avec Kofi Kwaoulé pour Samo, avec Marie Dilasser pour Penthesilée, qui était un mythe plus ancien. Et puis le spectacle qui a suivi, qu'on a joué au Vieux Colombier, c'était une commande à Claudine Galéa pour Trois fois Ulysse. Et à ce moment-là, on était quand même à un moment, on sortait des confinements. Le monde est quand même, on peut dire, un petit peu compliqué, un petit peu engageant. Et à ce moment-là, c'est à Laurent qu'elle a pensé, à Laurent Godet qu'elle a pensé, et à lui qu'elle a commandé ce texte.
Le postulat de départ, c'était simplement un texte en résonance avec un monde qui bouge, un monde qui est peut-être finissant.
Oui et non, parce que Laetitia travaille beaucoup sur la question de la mort, mais pas la mort en tant que telle, sur la question de la fin, et surtout sur la possibilité d'une renaissance. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un monde finissant, mais plutôt comment à travers cette fin, à travers cette mort, ce monde peut renaître. Et la vie et l'amour aussi peuvent émerger, fleurir sur un monde en cendres, en l'occurrence, là, pour Même si le monde meurt.
Alors parlons de la vidéo, puisque c'est vous qui êtes aux manettes. La vidéo est très présente en fond de scène, en fond de plateau. Il y a cette terre là et ce chronomètre, ce compte à rebours qui égrène le temps avant une potentielle catastrophe.
Tout à fait, oui. Bon, on travaille depuis maintenant presque 10 ans avec Laetitia. On a fait 4 spectacles et effectivement, Laetitia fait ce qu'elle appelle des spectacles indisciplinés, plutôt que de dire pluridisciplinaire. Donc elle travaille avec des créateurs, avec qui souvent elle est très fidèle, en l'occurrence c'est mon cas, et qui ont à la fois des sortes d'instructions précises et puis en même temps une très grande liberté. Et Laetitia avait déjà des grands axes au tout début de ce travail.
Et alors c'était quoi son axe là, vous concernant?
Il y avait des grands, me concernant, ça ne me concernait pas moi en particulier si vous voulez. Mais c'était des grands axes toujours sur des questions qui sont assez telluriques, des questions d'éléments. Laetitia travaillait avec les mythes, des mythes anciens comme Penthesilée, comme pour Ulysse, et puis là un mythe qui est beaucoup plus contemporain. L'axe qu'on a pris ensemble, si vous voulez, c'est comme la scénographie, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, est plutôt grise, est plutôt une terre de cendres. L'axe qu'on a pris ensemble, c'était plutôt de faire de la couleur et que ce ton d'eau, hein, c'est un format de la Renaissance, ce format rond sur lequel je projette, soit un petit peu la représentation, pas la représentation, mais disons une évocation du feu et du feu intérieur.
C'est très rougeoyant. Alors c'est plus qu'une terre, c'est un soleil qu'on voit rougeoyer au fond. Enfin, on ne sait pas si c'est la planète qui est en train de disparaître et ou alors si c'est un soleil qui va exploser. Qu'est-ce que c'est finalement?
Moi, il m'intéressait de travailler sur des choses qui soient plus des évocations qui parlent au corps du spectateur. C'est-à-dire, je représente rien. Parfois, on peut reconnaître une chose ou l'autre, mais qui travaille sur des choses qui sont plus inconscientes, sur ce mouvement intérieur. Il y a beaucoup le nombre d'or, ce décompte, c'est aussi un rappel du nombre d'or qu'on retrouve dans tout, hein, dans la nature, dans la chronologie. Et donc c'était vraiment travailler sur un accompagnement des acteurs et des actrices, toujours sur des rythmes de la mise en scène et des rythmes de la direction d'acteurs, c'est travailler sur des choses plus souterraines, plus le centre de la Terre, puisque, sans vouloir trop en dire, on parle quand même beaucoup de ça à un moment. Et voilà comment est né. Alors, certains voient un soleil, d'autres me disent « Oh, quelle belle lune !» Vous voyez, à un endroit, c'est plus cette circularité aussi qui est... Là où la vidéo, souvent, est horizontale pour faire naître la verticalité, ici, c'est circulaire dans ce cycle du temps.
On parlera tout à l'heure de cette espèce d'expérience sensorielle que vous faites alors, presque subir aux spectateurs. Il y a des gens qui sont ressortis en disant que leur cœur avait battu plus fort. C'est quelque chose... Où tout concourt à provoquer ce sentiment entre la musique, le tempo, le jeu des acteurs, l'éclairage, votre collaboration en tant que vidéaste?
Complètement, oui, complètement. C'est, bon, dans ce spectacle, le son et la musique sont très très présentes, de Joanne Cambon. C'est vraiment ce principe des spectacles de Laetitia Guédon qui est de faire se rencontrer différentes pratiques de manière à ce que le spectateur aussi puisse se promener, si j'ose dire. C'est une promenade un peu rapide, mais se promener dans les différents aspects du spectacle et faire lui-même son propre spectacle.
Alors justement, pour que nos auditeurs aient un petit peu conscience de ce qui se joue, on vous propose d'en écouter un extrait, donc « Même si le monde meurt », extrait.
Au petit matin, dans le ciel de l'aube, un nuage des tourneaux apparaît. Tout le monde croit qu'il va danser dans le ciel et faire des volutes étranges. Mais les oiseaux se mettent à tourner sur eux-mêmes, comme une colonne vivante, puis s'entre-dévorent dans un vrombissement de carnage. Ça commence là. Plus personne ne peut le nier et nos visages se creusent. Le même jour, des dizaines de chats errants se jettent sous les pare-chocs des voitures. Une sorte d'agitation fébrile parcourt le monde animal. Est-ce qu'ils savent eux aussi? Est-ce qu'ils sentent dans leur corps ce que nous avons compris par nos calculs? Tout devient nerveux. La peur monte. Le monde tremble. Il y a une chose qui devient sûre, nous le sentons. C'est la fin du monde. Un long chuchotement parcourt l'humanité. La fin du monde, oui. Alors, nous levons les yeux au ciel et dans les rues, qu'il fasse jour ou nuit, de peur ou de ferveur, que ce soit pour s'oublier ou pour conjurer le sort, nous nous mettons à danser.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Benoît Lahoz, avec vous, on parle de « Même si le monde meurt », un spectacle de Laetitia Guédon sur un texte de Laurent Godet. Dans ce spectacle, musique, éclairage, tout concourt à établir une tension qui mène à ce que le cœur du spectateur batte plus fort. Comme me l'a dit une spectatrice à la sortie du spectacle, Emmanuel Destremo, c'était pas prévu, vous êtes notre invité de deuxième partie, mais il se trouve que vous avez vu très récemment le spectacle et que vous nous parliez hors antenne de chimie.
Oui, enfin, j'ai l'impression que le processus théâtral que Laetitia Guédon met en place entre la sensation physique du son, l'image de la vidéo permanente qui est comme une sorte d'univers permanent aussi, ça me rappelle, ça m'évoque moi la permanence de l'univers, même si la planète disparaît, il restera tout le temps là. Enfin, en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, une sorte de tension. Et les corps des acteurs qui sont aussi comme dans une sorte de rituel. On parlait d'un livre qui était un rite et tradition pour réparer le monde, mais il y a une sorte de processus de réparation aussi dans l'écriture, dans la tentative de raconter une apocalypse, et dans les corps qui sont pris par des soubresauts, des vibrations permanentes, etc.
Alors ces corps, ils font partie de la scénographie, ils sont partie intégrante. Hein. Ce sont des corps qui sont émergents, il y a un moment, une naissance, hein. La naissance d'un enfant déjà très grand, parce que le temps va si vite qu'il faut qu'il soit adulte.
C'est un ensemble de solitudes au départ, hein, de personnes auxquelles on peut tout à fait s'identifier. Puisqu'on voit qu'il y a cette femme au tailleur qu'après Laurent appelle la femme au tailleur qui n'en portait plus, qui change complètement de vie. Un homme qui est quitté, qui finit par tuer sa compagne, puisque c'est la fin du monde, on peut tout s'autoriser, y compris le pire. Et effectivement, il y a une forme d'alchimie de ces solitudes qui se créent. À partir du moment où le monde déraille, où ils apprennent que ça va être la fin du monde, et puis cette fin du monde n'arrivant pas, ces solitudes se rassemblent pour une force de vie, et une force de vie qui a un côté complètement spirituel. Donc effectivement, il y a cette alchimie. Cette alchimie des corps, cette alchimie des éléments. Et je crois effectivement que à la fois la vidéo, enfin l'image, le son, tout ça constitue une sorte d'univers de départ dans lequel ces corps grandissent, ces corps changent.
Alors je voudrais juste préciser, enfin mon ressenti en tant que spectateur, c'est que vous parliez d'individualité, mais c'est d'abord une masse indistincte de chuchotements dont vont émerger des individualités qui vont nous dire ben, « voilà mon histoire, je la pose là, et voilà où va s'arrêter mon histoire parce que le monde est en train de craquer. »
Oui, ça commence par une sorte de brouhaha qui vient du public, puisque... les spectateurs verront, mais...
Laissons la surprise, on peut dire que dès le début, le public est dérangé.
Complètement. Et dérangé même dans cette dimension spectaculaire, dans le côté frontal du théâtre. Hein. Il est dérangé, et c'est exactement ce mot-là, Eric, émerge de ce brouhaha du monde... émergent des individualités précises, mais qui sont un peu aussi des archétypes. On s'identifie pas à des personnages en particulier, d'autant que c'est du théâtre récit, c'est très frontal, c'est axé sur la langue aussi.
Comment est-ce que vous qualifieriez ce spectacle ? Moi, j'ai envie de... Il y a quelque chose... En sortant de ce spectacle, j'avais envie de parler divertissement porteur de messages. Est-ce que c'est choquant de parler de divertissement, surtout dans le théâtre public ?
Oh, écoutez, du divertissement, on peut penser à divertimento, je vous vois sourire.
c'est parfois une grossièreté, mais...
Je crois pas que ce soit une grossièreté, disons que ça ne fait pas diversion, en tout cas. C'est pas ce type de divertissement-là. En tout cas, il y a quelque chose de très jubilatoire. Donc, effectivement, quand on vient voir ce spectacle, moi je trouve que c'est le plus rock'n'roll des spectacles de Laetitia Guédon. On vient voir ce spectacle et on en sort touché par tous ces aspects jubilatoires qui donnent de la joie, donc.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 et c'est Radio Scénic qui aujourd'hui est consacré à un spectacle qui met en scène l'apocalypse, qui met en scène une sorte de compte à rebours qu'on a un peu simulé ici. Ça s'appelle Même si le monde meurt et c'est un spectacle présenté au Théâtre de la Tempête. Benoît Laos qui est vidéaste et qui fait cette espèce de superbe soleil en fond de ce soleil rougeoyant qui va peut-être exploser, on ne le sait pas, parce qu'on est en face de la fin du monde. C'est lui que nous avons à notre micro. Hors antenne, on avait beaucoup de choses à se dire avec Emmanuel Destremau, qui est notre deuxième invité. On parlait de rituels, parce que ce qui est mis en scène, là, alors que le monde doit terminer, et peut-être un nouveau monde émerger, c'est une espèce de rituel païen, avec une sorte d'autel que vous avez prévu dans la scénographie.
C'est tout à fait... On l'appelle l'autel, hein, d'ailleurs. On l'appelle l'autel. C'est effectivement un rituel, mais c'est... C'est quand même une signature des spectacles de Laetitia que cette idée de rituel. Elle travaille sur des mythes, donc, comme je le disais, des mythes anciens et parfois ici un mythe contemporain, mais qui fait appel aussi à la figure de la Pietà, avec ce fils qui naît déjà grand et qui doit vivre vite, mais donc mourir plus tôt aussi. Et effectivement, cet endroit du retour du collectif dans toutes ces solitudes, c'est un hôtel.
Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'un spectacle sur l'apocalypse ne vire pas à l'agitation et à l'hystérie ? C'est un spectacle qui est dans la tension, mais pas dans l'hystérie.
Mais on vit dans un monde, là, aujourd'hui, où tout va extrêmement vite. Et là, la question n'était pas la question de la rapidité, mais la question de l'urgence. Et à un moment, ces personnages sont dans une urgence de vie extrême, puisqu'ils ont la date et l'heure de cette fin du monde. Et ils ont besoin d'aller très loin. Mais en même temps, c'est pas si vite, comment dire, c'est profond. C'est à plusieurs étages, c'est stratifié, cette vie.
Vous avez assisté à une bonne partie des répétitions, j'imagine. Il faut le dire, les comédiens sont absolument formidables. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Laetitia Guézon les a choisis avec des physiques tout à fait dissemblables. On a cette espèce de toute petite femme très fragile, mais qui est très forte, qui est porteuse de cette espèce d'augure. C'est l'oiseau de mauvais augure, c'est elle qui est porteuse de l'augure. Il y a également cette femme enceinte qui est peut-être le personnage le plus marquant parce que dans ce présage de mort, elle va enfanter.
Oui, alors elle est d'ailleurs assez fragile, elle est frêle, et pour autant c'est probablement aussi un des personnages les plus forts de ce spectacle, puisqu'elle elle est enceinte quelque temps avant la fin du monde, et elle veut absolument, nourrie, dit-elle aussi par la colère, elle veut absolument mettre au monde cet enfant qui finalement naît grand et qu'elle porte avec énormément de tendresse dans le texte, qu'elle pousse à vivre vite, à profiter et à surtout, dit-elle, je ne me souviens plus du texte exactement, mais ne pas apprendre à rire, mais rire vraiment. Donc elle est un peu le marqueur d'une sincérité profonde.
Comment ça s'est passé dans les répétitions? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre le texte et les comédiens? Est-ce que ça a bougé pendant les répétitions? Est-ce qu'on bouscule le texte d'un auteur goncourisé?
Sans cesse. Bien sûr, ça a bougé, puisque Laurent Godet a écrit aussi en fonction de cette équipe. Donc, on a eu plusieurs versions du texte. On a avancé. Laurent est venu voir les répétitions. Ils ont travaillé aussi en amont de nos répétitions, vraiment. Final, si j'ose dire, avant la création, ils ont travaillé pendant 15 mois régulièrement sur à la fois sur ce texte et sur ce spectacle.
Ça n'est pas à proprement parler, ce qu'on appelle un spectacle de plateau où le texte vient des comédiens, mais il y a toujours des allers-retours.
Il y a toujours des allers-retours, mais c'est une langue aussi, la langue de Laurent Godet est une langue extrêmement raffinée, profonde, à la fois épique et très très concrète. Donc, c'est littéraire. Si vous voulez.
J'ai le sentiment que tous, vous en tant que vidéaste, mais votre collègue du son, l'éclairagiste et aussi les comédiens, vous avez tous travaillé sur la notion de tempo, de rythme.
Ça, c'est quelque chose qui est aussi une signature des spectacles de Laetitia Guédon. C'est-à-dire, la question de non pas tout comme je disais de la vitesse mais du rythme et effectivement faire se marier plusieurs pratiques dont la principale évidemment c'est celle des acteurs au plateau, c'est aussi travailler sur un rythme commun avec des rencontres mais sur des contretemps. On est dans un battement de cœur quand même qui est pour cette fin du monde un battement de cœur qui est quand même un petit peu aléatoire.
Radio Scénique par Éric Dautaire, le théâtre sur Aligre FM.
Oui, Radio Scénique parle aujourd'hui, entre autres, de « Même si le monde meurt », un texte de Laurent Godet mis en scène par Laetitia Guédon, pour lequel nous recevons Benoît Lahoz, qui est l'auteur de la très belle vidéo qui concourt à cette espèce de battement de cœur qui saisit le spectateur du théâtre de La Tempête. On l'a dit tout à l'heure, ce spectacle, c'est une fin collective annoncée, mais une série de destins individuels contrariés. Il y a cet homme, c'est terrible, cet homme qui tue cette femme pour être sûr que le dernier visage qu'elle verra avant l'apocalypse, ce sera le sien.
Oui, c'est vraiment assez terrible parce qu'il le fait en toute... sans aucune... Il dit à un moment, je n'ai pas de châtiment. Et il jubile de ne pas avoir de châtiment. Et bon, on voit par la suite que finalement, c'est plus compliqué que ça.
Il y a autre chose, un autre destin, c'est cette femme. Je pense que c'est la femme au tailleur qui dit je voulais changer quelque chose et j'aurais pas le temps de surprendre.
Ah, c'est la femme fatiguée.
La femme fatiguée.
Voilà. C'est la femme fatiguée qui devient la femme barre de fer et qui est nourrie de colère. Elle plonge dans une colère infinie et une violence infinie, avec un petit un rapport à une forme de militantisme, de violence politique aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des archétypes. Ces personnages, on s'y attache sans s'y attacher, ils sont représentatifs d'une sorte de comportement vis-à-vis de la fin. Le regret, la naissance, la violence.
Ils sont de prime abord assez univoques, ce qui nous permet de nous attacher effectivement à ces archétypes.
Ils n'ont pas de nom, hein. Ils ont juste une description telle que, vous l'avez dit, la femme en tailleur.
La jeune fille,
voilà.
Le pressé de vivre, la mère, évidemment.
J'ai l'impression qu'il y a
Emmanuel Destremo.
Ça joue sur un fantasme qui est qu'est-ce que je ferais si c'était la fin du monde ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va s'autoriser à faire si c'est après-demain ? Il y en a qui veulent faire l'amour, il y en a qui vont tuer, il y en a qui vont être désespérés, d'autres au contraire, ça leur donne beaucoup d'énergie. Et dans ce fantasme, vu qu'on le pousse au bout, ça fait effectivement, il faut que mon enfant naisse et qu'il grandisse vite, etc. Et qu'on est à la fois donc, dans des individus, mais très archétypaux, et du collectif, parce que c'est un fantasme dans lequel tout le monde peut se projeter. C'est comme une sorte de peur qu'on a tous, et éventuellement un désir aussi d'imaginer ce qu'on pourrait faire. Et quand vous parliez de rythme tout à l'heure, moi je pense que ce qui définit aussi ce spectacle, c'est vraiment la rythmique de la langue, du corps. Les corps parfois se mettent à vibrer tous ensemble, etc. Et on est toujours dans une vision assez collective de l'humain, en fait. C'est de savoir comment cette rythmique va les emmener, jusqu'où elle va les emmener.
Benoît Lahoz.
Chacun, chacune, pourrait être une part de nous et d'un ensemble plus vaste. Ça pourrait être simplement un corps qui nous est donné en miroir, un corps complet, avec une part de nos surmois dépassés souvent, soudain. Et effectivement, c'est un rythme intérieur entre ce qu'on pourrait s'imaginer faire ou non. Mais il y a des choses très lumineuses. Par exemple, cette femme au tailleur qui n'en portait plus, elle réalise qu'elle a perdu une partie de sa vie avec cette rythmique temporelle de ses journées. Et elle va vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, pour le coup.
C'est important de dire aux auditeurs et aux potentiels spectateurs que c'est un spectacle qui se regarde de manière tout à fait facile. C'est bon, on peut peut-être ne pas y emmener ses enfants, mais pas ses ados certainement. Ça donne les clés de compréhension de ce qui pourrait se passer et puis de comportement humain sans être caricatural. On a affaire à des archétypes, vous le disiez Emmanuel Destremo, suffisamment ouverts pour accueillir nos propres comportements sans être des caricatures, des archétypes sans caricature.
Oui, et puis tout est fait pour que ce soit jubilatoire, comme je disais. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble de ces pratiques qui se marient, on est vraiment au cœur d'un spectacle qui est effectivement très dynamique, mais qui peut être reçu reçu très, avec beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse aussi dans ce spectacle.
Benoît Lahoze, rappelons que vous êtes l'auteur des vidéos de ce spectacle Même si le monde meurt, qui se joue jusqu'au 6 avril au Théâtre de la Tempête. Le spectacle est signé Laetitia Guédon et le texte est de Laurent Godet. Merci.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aligre FM 93.1, vous êtes à l'écoute de Radio Scénique. Radio Scénique, on se pose la question de la fin du monde. Emmanuel Destremo, bonjour.
Bonjour.
Dans votre ouvrage Red Access Memory, il en est un peu question.
Random Access Memory.
Il en est un peu question. Rappelons que vous êtes autrice et compositrice sous le nom de Rupert Pumpkin. Vous êtes scénariste de cinéma comme de série, librettiste d'opéra, et vous vous présentez comme une artiste pluridisciplinaire, amoureuse des mélanges. Vous avez écrit une vingtaine de pièces, dont celle-ci, Random Access Memory. C'est une sorte de dystopie. Et cette pièce, étant lauréate de l'appel à texte des EAT, les écrivains et écrivaine associée du théâtre, il était logique que nous vous recevions. Alors, Random Access Memory, qu'est-ce que c'est que ce texte ?
Alors, c'est un texte qui raconte l'histoire d'un jeune gamer qui s'appelle William et qui est habitué à jouer assez souvent, mais c'est pas non plus son métier, et qui essaye un nouveau jeu qui s'appelle le Random Access Memories. Et voilà, il rentre dans ce nouveau jeu et à l'intérieur duquel il y a un gameplay, puisque c'est ça, c'est le territoire du jeu, qui est assez libre, à presque infini, et dans lequel il y a une seule règle, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière quand on a pris une décision, quand on a fait un choix. On ne peut pas revenir en arrière ni récupérer sa vie. Enfin, on ne fait que avancer et on ne sait pas où on va. Et puis, il y a une autre règle aussi dans ce jeu, c'est qu'il va écouter vos pulsions les plus secrètes, les plus cachées. Donc, si vous êtes surpris d'arriver dans une situation, bah, c'est peut-être un peu vous qui l'avez rêvé ou fantasmé. Voilà, c'est un petit peu le projet de ce jeu. Donc, il rentre dans ce jeu. Et peu à peu, le réel et le virtuel vont se mélanger. Il ne s'y attend pas. Mais en fait, finalement, c'est ça que propose ce nouveau territoire. C'est qu'on arrive dans un monde où on ne sait plus si ce qui se passe, c'est dans le jeu ou si c'est dans le réel. Et puis, finalement, sa vie se fait plus ou moins absorber par le monde virtuel.
Alors, ce que je vous ai proposé, c'est que vous nous en lisiez un extrait. Cet extrait que vous allez nous lire, il se situe... Comment ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je suis obligée de spoiler un tout petit peu les choses, mais en fait, là, c'est un épisode qui se trouve, disons peut-être, enfin un peu plus, un peu après la moitié de la pièce. Il se retrouve interrogé par un policier. Parce que, on va le comprendre dans le texte, mais il s'est retrouvé à deux reprises à l'intérieur du jeu en situation de tuer un enfant.
Emmanuel Destrémont vous écoute lire un extrait de Random Access Memory.
Comment t'expliques qu'on ait retrouvé tes empreintes à l'intérieur de sa main ? Et quelques gouttes de sueur avec ton ADN entre ses doigts, sur le tissu de son vêtement dans le dos ? Et cet oxygène qui a traversé tes poumons à l'intérieur de ses poumons, c'est fou, non ? Avoue que ça fait beaucoup de coïncidences. On est tout à fait prêt à entendre ta version, tu sais, on veut simplement élucider le mystère, personne ne t'accuse. On trouve ça finalement étrange, toutes ces traces de toi sur les lieux de deux infanticides, mais après tout, tu as sûrement une explication logique. Il faut simplement que tu nous parles. Si tu ne nous parles pas, on ne pourra pas te croire, on ne saura pas qui croire, on commencera à s'imaginer des trucs. Jusqu'à présent, on avait enregistré tout un tas de preuves, de traces, de signes, comme ça, par habitude, la routine, tu sais. Tout est consigné, enfin, tu connais le principe. Reconnaissance faciale, etc., pipi caca. Bientôt, il faudra des pays entiers de hangars pour conserver les informations récoltées par les algos. Tout ce brouhaha de données qui se déplacent en permanence, achetées, vendues, circulation, entassement, vitesse de la lumière d'un bout à l'autre de la planète. Ça fait du mouvement, tout ça. Hein. Récupéré par nos services, au bout du compte. Tu sais qu'on ne produit pas suffisamment d'énergie pour faire tourner les machines qui seraient capables de tout analyser. Hein. Une grosse blague. Enfin, du moment qu'on peut faire vendre des baskets et du lithium... On collecte. On fabrique la plus belle collection de données insipides de l'histoire de l'univers. Plus de données que de matière vivante et organique. Plus de données bientôt que d'atomes sur la planète et de combinaisons différentes de parties d'échecs. Tu veux des chiffres ? Je parie qu'il n'y a pas une seule civilisation extraterrestre qui a été assez con pour en arriver là. User la planète jusqu'à la corde pour pouvoir stocker des zéros et des 1. Tout ce que tu fais laisse des traces, tu le sais, non ? Et nous, notre job ? C'est d'analyser les traces. C'est notre expertise, quoi. Donc, je t'écoute maintenant. Pourquoi tu veux absolument tuer des gosses, William ? C'est quoi ton problème ? Tu crois qu'on peut faire reset indéfiniment et recommencer à zéro avec un nouvel avatar ? Reroll ? Changer de skin impunément ? C'est fini, ça. On fait plus, ça. On est passé à un autre genre de game. Et les tueurs d'enfants, nous, on n'aime pas.
It's 5 and I'm driving home again. It's hard to believe it's my last time. The man on the wireless cries again. It's over, it's over. Dancing with tears in my eyes, weeping for the memory of a life gone by. Dancing with tears in my eyes, living out a memory of a love that over. Damn.
toujours sur Aligre FM et nous sommes avec Emmanuel Destremo pour son texte Random Access Memory, lauréat du prix des EAT 2023. Ce que vous venez de lire, cet extrait, ça montre la connexion entre les actions virtuelles de William et la real life, la véritable vie. C'est-à-dire que ce jeu dans lequel il s'inscrit, il n'a pas de retour en arrière, mais il a des conséquences.
Exactement. En fait, moi, je suis partie d'une interrogation sur les origines de la violence, de façon globale, donc assez générique. Le rapport à l'enfance aussi dans la violence et les origines et puis notre rapport à la violence virtuelle, c'est-à-dire que non, c'est pas grave de tuer de tirer sur des personnages parce que ce sont des personnages virtuels et qu'en fait on entraîne aussi quand même nos enfants on les laisse se débrouiller avec des jeux vidéo où ils passent leur journée à dégommer des êtres virtuels. Donc après, moi, je ne dis pas que ça... En fait, je pose la question. J'ai besoin de me poser ces questions pour plusieurs raisons et aussi en faisant des recherches sur l'origine, sur les jeux vidéo et sur leur développement et qui les a développés, qui les a, diffusés. En fait, le premier jeu vidéo, c'était développé par l'armée américaine pour entraîner des soldats. Donc, ce n'est pas du tout un hasard. Et en réalité, on a aussi des jeux vidéo absolument merveilleux dans le monde du jeu vidéo parce que c'est un endroit d'imaginaire que je trouve absolument fabuleux. Et c'est ça qui me fascine aussi, c'est la capacité de création en fait, qu'il y a dans ce monde-là. Mais ceux qui sont les plus vendus, les plus utilisés, ce sont des jeux de guerre, des jeux de personal shooter où en fait on est soi-même en train de tuer des individus.
D'où effectivement l'interrogatoire de police, c'est William, est-ce que ça t'amuse de tuer des enfants ? Dans votre dans Random Access Memory, il y a des personnages. Vous matérialisez en fait un certain nombre d'actions de la véritable vie, la real life, avec des personnages. Il y a ce petit homme dont le travail est de collecter des données. Toutes les données, il les mange, il les avale, il les digère.
Oui.
Il y a aussi Atman. Atman, qui est-il ?
Atman, il y a trois figures d'enfants dans la pièce. Il y a un premier enfant qu'on ne sait pas qui c'est, mais qui va être sacrifié. Il y a un deuxième enfant qui est Astyanax, que William va devoir jeter du haut des remparts de Troie, dans la fiction, puisque dans les jeux vidéo, on peut se retrouver dans toutes les époques et vivre plein de choses. Et puis le troisième, c'est un enfant soldat. Donc là, on est dans le monde contemporain. Et ça, c'est en fait trois figures aussi d'enfance sacrifiée qui pour moi interrogent justement notre relation à transmettre en fait ces processus d'habitude de violence, de pratiquer la violence en laissant nos enfants agir, devenir acteurs de ça. C'est une façon de sacrifier aussi leur enfance, je pense.
Je cite Atman, hein, je travaillais à la mine de fer pour les Américains. Je descendais chaque jour profond, ramassais des cailloux et des pierres que je mettais dans un sachet en plastique, $5 la semaine. Moi, je pouvais me faufiler dans les boyaux de la mine avec les autres enfants. On ne respirait pas, parfois on se battait pour récupérer les meilleures pierres. Je faisais vivre ma famille.
Et ça, c'est vrai, hein. C'est du documentaire, en fait. C'est-à-dire que je me suis vraiment renseignée sur beaucoup d'enfants soldats, j'ai lu beaucoup d'interviews, de sources. C'est la vraie vie, enfin, c'est pas du tout inventé, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il y a un très beau film aussi sur des enfants soldats, donc j'ai oublié le nom, mais je pourrais vous l'envoyer, enfin... où on se rend compte que à 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans, ils sont dans la forêt, ils vont dans des villages, ils font des massacres, etc. Enfin, voilà, on se demande où c'est pas du tout virtuel pour le coup, mais voilà, c'est le mélange en fait dans cette pièce d'instants réels et de violences virtuelles et on ne sait plus où on est vraiment.
Sans culpabiliser du tout le lecteur, hein, vous dites simplement, voilà les gestes de William, ce jeu, il a des conséquences et il te rend aussi inapte à la vie sociale. Il y a on peut évoquer le dialogue avec la manageuse qui lui dit par vidéo interposée, non, on ne vous retient pas pour le poste.
Mmh. Mmh. Oui, lui, il fait son état des lieux, de ses skills, hein, de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, dans le monde du jeu vidéo, c'est toutes les choses qu'on a appris à faire. Et il peut poursuivre un ours pendant 4 jours dans la forêt sibérienne, etc., virtuellement. Et en fait, il sait faire beaucoup de choses dans le jeu, mais ça ne suffit pas pour être embauché dans la vraie vie. Enfin, y a un jeu comme ça, puis c'est aussi très ludique. En vrai, c'est aussi une pièce où il y a de l'humour, dans le sens où on va pousser un peu, on va amener le spectateur à jouer avec nous, à jusqu'où on va. C'est un peu comme le jeu de « si c'était la fin du monde, qu'est-ce qu'on ferait ?» Ben là, on est un peu dans cette idée-là aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble à ces questions. J'ai pas de réponse.
Alors moi, j'ai envie d'autre chose, c'est de savoir quelles sont les suites qui vont être données à ce texte qui a été primé par les EAT. D'abord, il a été édité chez qui ?
Alors, il est édité chez Koiné, donc le livre est sorti en octobre. Il y a une compagnie, une jeune metteur en scène qui s'appelle Mégane Arnaud, qui sort de l'ENSAT, qui a mis en scène ce texte. Donc, c'était au Théâtre de l'Opprimé en octobre. Là, ça va être au Théâtre de l'Élysée à Lyon du 7 au 14 avril, je crois, donc très prochainement. Et ils vont jouer aussi au Théâtre des Amandiers à Nanterre en janvier-février prochain, donc 2026.
Alors, on précisera toutes ces dates. Voilà. Toutes ces dates. Et votre actualité à vous, Emmanuel Lestremo, en tant que chanteuse, librettiste, il y a un de vos opéras qui a été récemment montré à Lyon.
Oui, alors là, j'ai écrit le livret d'un opéra qui s'appelle « L'avenir nous le dira ». C'est un travail de création avec Alice Laloy, metteur en scène Alice Laloy, et la compositrice Diane Asso. Donc, ça vient de commencer à Lyon au TNP et on va jouer à l'Opéra de Nancy aussi 4 et 5 avril. J'ai aussi un spectacle que j'ai écrit qui s'appelle Icône qui joue au CDN de Poitiers 1er et 2 avril, dans lequel je joue aussi avec une comédienne qui s'appelle Mathilde Panis.
Ça va en faire des dates à mettre sur notre site internet.
Et surtout pour les Parisiens, je vous donne rendez-vous le 11 avril au Théâtre Berthelot à Montreuil, dans lequel je vais faire un concert en tant que Rupert Pepkin, qui est mon nom de chanteuse.
Emmanuel Lestremo, merci. Pascal, dites-nous donc un peu, ce fameux boulevard du crime, c'est quoi au juste ? Est-ce que c'est vraiment un lieu aussi dangereux que ça ?
Cela dépend où l'on se trouve, sur scène ou dans la salle, ou encore dans la rue, devant un théâtre, par exemple, en train d'assister à un petit spectacle bien innocent joué sur des tréteaux. On peut faire les frais de quelques pickpockets bien habiles à vous soulager d'un portefeuille ou d'une montre à gousset, comme on le voit dès le début du film de Marcel Carné, « Les enfants du paradis ». Tourné pendant l'occupation et sorti en salle à la Libération, il narre de bien sombres aventures qui ont pour décor le monde du théâtre, plus précisément le théâtre que l'on pratique sur ce fameux boulevard, dont Alexandre Trauner avait reconstitué les façades pour le tournage près de Nice.
Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment ?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre ?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors ?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous savez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
C'est un paysage urbain de briques et de brocs qui n'est pas encore tiré au cordeau. Mais à part les larcins et autres crimes légers commis parmi la foule, c'est sur scène que se produisent les crimes abominables joués par les comédiens pour la plus grande joie d'un public populaire et volubile, voire tumultueux, en particulier celui qui se trouve tout là-haut, au paradis, où l'on paye moins cher.
Donc nous avons des enfants, des crimes et un paradis, tout un programme. Mais où se trouve donc ce fameux boulevard du crime dont vous nous parlez ?
Où il se trouvait, car il n'en reste pas grand-chose. C'est probablement le nom que l'on donnait au boulevard du Temple avant que la bande à Haussmann vienne tout casser pour fabriquer ce grand vide que constitue la place de la République. Car la série des boulevards qui partent de la Bastille pour rejoindre la Madeleine correspondent à l'ancienne enceinte de la rive droite, supprimée par Louis XIV, qui devient lieu de promenade populaire, puis lieu de divertissement tout aussi populaire. Pendant longtemps, il était interdit de créer des façades sur ce boulevard côté ville, ou de construire quoi que ce soit côté campagne, pour des raisons militaires. C'est pourquoi seules des activités temporaires et ludiques y ont pris place au fil du temps. Les boulevards se peuplèrent petit à petit de jeux de pommes, de châtelets pour y jouer des pantomimes, des kiosques et puis des cabarets, des cafés et ensuite de vrais théâtres. À l'époque de Balzac, les grands boulevards étaient l'endroit le plus branché de la capitale.
Mais pourtant, ces boulevards ne doivent rien aux travaux entrepris sous Napoléon III pour transformer la capitale.
En effet, ni les boulevards Beaumarchais, Saint-Martin, Montmartre et Bonne Nouvelle, ni les Italiens, ni même le boulevard des Capucines ne sont des réalisations haussmanniennes puisqu'ils existent déjà. Cependant, la fête continue pendant le Second Empire et à la Belle Époque. Le spectacle aussi continue, que ce soit au Cirque d'Hiver, au Théâtre de la Renaissance, aux Variétés, à l'Opéra ou à l'Olympia. Mais il ne fallait quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Il y avait le théâtre et théâtre. Il y avait d'un côté le théâtre de la bonne société avec les tragédies classiques, les pièces de répertoire jalousement protégées par les institutions telles que l'Odéon et la Comédie Française. Et de l'autre côté, les saltimbanques, les amuseurs, les acrobates, les mimes, le vaudeville et le crime que l'on pouvait voir jouer dans les petits théâtres du boulevard. Le film de Marcel Carnet met en scène ce monde chatoyant à travers le théâtre des funambules, disparu lors des travaux d'Haussmann, en ressuscitant le mime de bureau et l'acteur Frédéric Lemaître, que l'on surnommait le Talma des boulevards.
Du boulevard du crime au grand boulevard, que se passe-t-il avec le théâtre ?
À la fin du XIXe siècle, le théâtre de boulevard s'est embourgeoisé un peu. On s'éloigne des saltimbanques et on joue la comédie, surtout constituée par le vaudeville. Ce genre qui existait déjà sous la forme de chansons et ballets s'est transformé depuis le XVIIIe siècle. Il est essentiellement basé sur un comique de situation qui peut, dans le meilleur des cas, s'apparenter à une parodie satirique de la société bourgeoise. L'idée est surtout de divertir le spectateur grâce au quiproquo coquin et non de l'édifier par des leçons de morale. Les auteurs ne sont ni Corneille ni Racine, mais s'appellent La Biche et Feydeau. Bien que fréquenté par la bourgeoisie parisienne, le théâtre de boulevard reste toutefois méprisé. C'est peut-être pour cette raison que le théâtre de l'Opéra Comique présente sa façade principale sur la petite place Boieldieu et tourne ostensiblement le dos au boulevard des Italiens.
Fin de cette 11e édition de Radio Scénique, votre magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Aligre FM 93.1. Merci à nos invités. Nous avons d'abord accueilli Benoît Lahose, qui est le vidéaste de « Même si le monde meurt », un spectacle de Laetitia Guédon sur un texte de Laurent Godet. C'est un spectacle qui nous a impressionnés et qui réunit une troupe de jeunes et talentueux comédiens. Et c'est à voir jusqu'au 6 avril au Théâtre de la Tempête. Emmanuel Destremo était également avec nous en studio. Son texte a été lauréat dans la catégorie Tout public 2023 des EAT écrivains et écrivaines associés du théâtre. On y voit un joueur aspiré par un jeu vidéo dans lequel chaque étape franchie est sans retour, mais pas sans conséquences. Ce texte sera joué à l'Élysée à Lyon du 7 au 14 avril et ensuite aux Amandiers de Nanterre.
En janvier 2026.
En attendant, vous pouvez retrouver Rupert Pumpkin, c'est l'autre nom d'Emmanuel Destremo, lorsqu'elle chante en concert le 11 avril, au Théâtre Berthelot à Montreuil. C'est un concert de clôture d'un événement qui s'appelle...
Les Journées Créatures du collectif Créatures, c'est un collectif d'autrices.
Voilà. Et pour continuer sur les EAT, une petite information de la part de notre partenaire. Le comité de lecture jeunesse 2025, présidé par Stéphane Bins, a révélé ses 4 lauréats. Il s'agit de Lisa Lheureux pour Parmi les monstres, Cécile Mouvet pour Je suis un système solaire, Maxime Champagne pour Francky et Pierre Berliou, pour Dark. On les retrouvera sûrement prochainement de Radio Scénique. Bon, on va vous mettre toutes ces informations, il y en a beaucoup, hein, sur la page de notre émission. Vous retrouverez l'actualité de nos invités et bien entendu notre émission sous forme de podcast. C'est sur le site aligrefm.org que ça se passe. Concernant mon équipe du jour, merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté et a concocté la programmation musicale de cette 11e édition. Pascal Duterte était à la chronique, merci à lui. Côté technique, un grand merci à Enrico Mastrogiovanni, qui était aujourd'hui derrière la vitre. On se retrouvera le 14 avril pour une nouvelle édition de Radio Scénique. En attendant, il est 10h54 à 11h, après le théâtre que l'on vient d'évoquer, vous retrouverez le cinéma avec toute l'équipe de Vive le cinéma.
walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.